Une journée des Imaginales, on a déjà fait des belles rencontres, vous en particulier, je l'imagine. Et cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet de l'imaginaire, en particulier de fantasy, et pas seulement. On ira faire des petites escapades au-delà de la fantasy avec, entre autres, Hervé Jubert. On va commencer par la fantasy urbaine, ce qu'on appelle la bitlite en France. Et on va commencer donc, tout seigneur, tout honneur, seigneur au deux sens du terme, bien entendu, avec Chloé Nel, où on va retrouver Mérite, l'héroïne des Vampires de Chicago. Un coup, c'est tout dont ce dont tu as besoin. Sans plus de cérémonie, il lança un élégant coup de pied circulaire qui m'aurait projeté son pied nu droit dans la figure si je ne m'étais pas jeté en arrière. Je percutais le tatami sur le dos, le souffle coupé par l'impact. J'étais allongé, toute la galerie gloussant sottement au-dessus de moi, et je ne savais pas ce qui me faisait le plus peur. Le fait qu'il m'avait presque asséné un coup de pied dans la figure, ou le fait que j'avais été assez rapide pour l'éviter. J'avais changé, c'était certain. Joli réflexe, à quelques mètres, Ethan me considérait avec curiosité. Il n'était pas le seul à se poser des questions. Je me demandais de quoi je pouvais encore être capable. Je me redressais, les paumes bien à plat sur le tatami, remontais les jambes, roulé en arrière et me retrouvais soudain sur mes pieds après un bond fulgurant. Très joli. J'écartais son compliment d'un haussement d'épaule, mais j'étais excité par le mouvement. Cela faisait des années que je n'avais pas pratiqué la danse classique, mais j'avais toujours savouré les quelques secondes que je passais en l'air lors de l'exécution du grand jeté, la brève sensation de défier la gravité et de gagner. Cela y ressemblait, mais c'était infiniment plus satisfaisant. Mon corps paraissait encore plus léger, encore plus alerte que lorsque j'avais été au sommet de ma forme de danseuse. Peut-être y avait-il des avantages à être vampire, après tout. « C'était une petite figure d'essai, lui dis-je en souriant. Alors voyons ce dont tu es capable. Quelqu'un mit de la musique et The Hand That Fits, des Nine Inch Nails, remplit la pièce. « C'est approprié, marmonna-t-il en me faisant de nouveaux signes. Nine était un choix intéressant pour un vampire de près de 400 ans. Quels que soient ses défauts, je ne pouvais critiquer ses goûts musicaux. Je reportais aussitôt mon attention sur le défi qui m'attendait et tentais ma chance. Je lui lançai un coup de poing, faisant tourner mon poignet pour le percuter de côté. Mais il évita mon attaque, suivit le mouvement de ma main et projeta sa jambe en un mouvement rasant qui faillit me faucher les pieds. Je bondis juste à temps et me cambrai pour effectuer un saut de main qui me propulsa à quelques mètres de lui, hors de sa portée. C'est du moins ce que je croyais, jusqu'à ce qu'il se jette en avant si vite que son mouvement fut brouillé. Je fis un nouveau flip arrière, puis un autre, me livrant cette pirouette sans aucun effort. Mais il continua à avancer. Quand je me redressai la dernière fois, je m'accroupis aussitôt, ce qui me mit hors de portée du coup qu'il essaya de m'envoyer à la mâchoire. Son poing frappa l'air et je tentai de lui saisir les genoux, mais il en s'envola au-dessus de moi, atterrissant dans mon dos avec un bruit sourd. Je poussai de nouveau sur mes pieds et me tournai pour le découvrir en train de sourire, ses yeux verts jetant des éclairs. « Je suis impressionné. Reprenons. » Chloé Nel, cette petite scène de bagarre entre Ethan, le chef des vampires de la maison Cadogan, et puis Mérite, la jeune vampire transformée par Ethan, mais pour lui sauver la vie. Donc, ni volontaire, Mérite n'avait pas envie d'être une vampire, et Ethan n'avait pas prévu de la transformer. Ce petit duel devant une assemblée de vampires, est-ce que c'est une façon de mettre en scène le rôle de combattante que va avoir votre héroïne, ou est-ce que c'est une façon de construire les rapports un peu sadomasochistes, un peu étranges que vont avoir Ethan et Mérite, ou est-ce que c'est les deux finalement?
Both of those things. That's very nice analysis. That is exactly what I set out to do. Merritt in these books changes from a graduate student, a very cloistered student of English literature who reads and studies a lot. And over the course of these novels, she develops her skills as a vampire fighter and a protector of her house. And I wanted to set up early on, give her an opportunity to see what her newfound vampire abilities would give her, and also let her master, Ethan Sullivan, see what skills she had. And in the course of that scene, you also see that their get a hint of how their relationship will develop throughout the course of a series. That's one of my favorite scenes in the entire books, and not just because it has a Nine Inch Nails song in it.
Un petit peu des deux, c'est une excellente analyse parce que c'est exactement ce que je visais dans cette scène. C'est une de mes scènes préférées dans le livre et pas seulement à cause de la chanson des Nine Inch Nails. Donc j'adore cette scène. Donc effectivement, je voulais montrer comment Merit, qui est une doctorante d'anglais, une fille qui aime bien travailler toute seule dans la bibliothèque, faire ses recherches et tout, comment une fois qu'elle devient un vampire, comment elle va devoir changer parce qu'elle devient sentinelle de la maison et donc elle doit développer ses talents de guerrière. Et dans cette scène, elle découvre un petit peu ses capacités, mais en même temps, donc elle apprend à lutter contre Ethan et elle finira peut-être par le battre même dans une série, enfin dans un des tomes ultérieurs. Mais bon, on ne dira pas tout. Et finalement, c'est une façon aussi de montrer comment va se développer leur relation, donc la relation entre Ethan et Merit. Donc tout à fait, en fait, j'essayais de faire les deux.
On va passer à Gabriel Katz. Si ma mémoire est bonne, Gabriel, vous avez eu un prix l'an dernier aux Imaginales.
Je crois que ta mémoire est bonne, effectivement. Alors, il faudrait déjà que je dissipe un petit malentendu avant qu'on parle d'autre chose. Je risque de passer pour un timide maladif, mais en fait, il y a un petit bar à Épinal où on boit du rhum arrangé, qui est vraiment très bon. Et donc, j'ai la bouche terriblement sèche. Donc non, ce n'est pas la timidité, je ne vais pas forcément toujours très clair.
On a le droit de faire de la pub.
Bien sûr, on a le droit de faire de la pub, oui.
La maîtresse de guerre, après le prix Imaginal de l'an dernier, un nouveau livre. Au même instant, la porte de la maîtresse cédait. Kaëline enjamba le corps d'un autre valet, égorgé. Et à la lueur d'une lampe posée au sol, elle aperçut un homme, petit et râblé, le visage marqué de tatouages, qui tenait une lame effilée dans chaque main. Il se tenait dans le couloir, tandis que dans la chambre, on entendait des cris. Combien était-il ? Cela n'avait plus d'importance. Le tueur hurla une phrase incompréhensible et se jeta sur elle, ses deux lames levées. Les leçons de Horn revinrent comme l'éclair. Il fallait profiter de son absence de garde et frapper droit à l'abdomen. Soit le coup porté, soit elle était morte. Le coup porta. Emporté par son élan, l'assassin vint s'empaler tout seul sur la lame avec une expression de profonde surprise. Sans réfléchir, Kaëline retira l'épée d'un coup sec, poussa l'homme pour être sûr de le voir tomber et fit irruption dans la chambre où un autre assassin était penché sur Fenia. D'une main, il la tenait par l'oreille et de l'autre, il brandissait sa lame pour lui trancher la gorge. Il ne vit pas Kaëline jaillir dans son dos, pas plus qu'il ne comprit d'où venait le coup qui lui entaillait la nuque jusqu'à l'os. Sans un cri, il s'écroula face contre terre et son poignard courbe crissa sur les dalles. On entendait déjà des voix dans le hall, mêlées au tintement des côtes de maille, la garde. Kaëline posa son épée sur le sol et la repoussa de la pointe de son pied nu. Il ne fallait pas qu'on la voie l'arme à la main. La patrouille de nuit la transpercerait de 15 coups de lance avant même de comprendre ce qui s'était passé. Fenia se plia en deux et toussa comme si elle allait vomir. Puis elle releva lentement la tête, mit de l'ordre dans sa coiffure défaite et rajusta sa robe de nuit. Elle regarda Kaëline de la tête aux pieds, se demandant sans doute si elle n'avait pas rêvé. Cette gamine de 20 ans, pieds nus, en robe de domestique, venait de lui sauver la vie en tuant deux assassins, deux professionnels, portant les tatouages des bas-fonds avec leurs lames empoisonnées. La jeune fille ébouriffa sa crinière bouclée et lui adressa un petit sourire. « Vous aviez raison, dit-elle. Je ne sais pas si je vous ai offert un cheval. » Mais j'ai bien fait de venir. Voilà, scène de baston, une jeune esclave, pour situer un peu l'histoire, qui a été raflée et donc mise à disposition d'un homme puissant, un homme de guerre, et puis une femme importante qui joue un rôle politique, en tout cas qui essaie dans la cité, et puis cette jeune esclave à qui on a donné quelques cours, visiblement elle a bien appris sa leçon. Alors la baston, elle aime ça ?
Je ne sais pas si la baston elle aime ça ou si elle veut se montrer à la hauteur de son père. C'est une fille qui est fille de maître d'armes et dans un monde que j'ai stupidement créé à peu près comme le monde actuel, c'est-à-dire complètement macho. Donc on ne veut pas d'elle comme combattante, il se trouve que son père n'a jamais eu de fils et il se trouve qu'elle veut, elle, prendre la relève. Ça n'a pas tellement marché, elle s'est embarquée dans une armée qui est partie au fin fond de nulle part et elle veut prouver à elle et aux autres qu'elle est tout à fait capable de se battre comme un homme. Bon, en l'occurrence, sur ce genre d'extrait, on s'aperçoit qu'elle commence pas si mal, mais la barre est beaucoup plus haute après, en fait. Donc, elle a quand même besoin de pas mal d'apprendre et elle a besoin de prouver à peu près 2 à 10 fois plus qu'un homme que ce qu'elle fait est valable et dangereux et la positionne comme une guerrière de haut niveau.
Dans La maîtresse de guerre, rien que le titre déjà, on sait bien que les femmes sont des choses fragiles, des êtres de douceur et de délicatesse. L'idée même de faire d'une femme une combattante, ça vous est venu comment ? Des mauvais exemples dans l'actualité ou une envie de bousculer les habitudes en fantasy ?
Non, alors il y a une envie de bousculer les habitudes, pas forcément en fantasy, mais en tout cas pour moi. C'est-à-dire que je sortais d'une trilogie avec trois mecs que j'ai tenus pendant 3 fois 400 pages et des bananes. Donc je me suis dit que j'avais quand même une sorte de mécanique un petit peu rodée de gros mecs musclés qui donnaient des grands coups d'épée. Et je me suis dit, rentrer dans la peau d'une femme pour aller un petit peu à contre-courant, ce serait sympa. J'avais pas prévu en fait que j'ai eu à peu près autant de difficultés qu'elle, parce que le monde que j'avais créé m'est revenu dans la gueule. C'est-à-dire que c'est assez compliqué finalement de la positionner par rapport à ses adversaires, par rapport à tous les gens qui la méprisent, par rapport aux gens qui la regardent de traviole. Donc c'est un petit peu complexe en fait. C'est à la fois très intéressant, très amusant et extrêmement compliqué. Et je pense que les femmes vivent ça au quotidien, même si elles se battent pas forcément un grand coup de pied.
Père Pevel, vous avez l'air tout gentil comme ça. Vous donnerez le bon Dieu sans confession. Eh bien, voyons ça de plus près. Le monde était un cauchemar. Un royaume hanté et hurlant, le prisonnier fuyait. Aveuglé par les bourrasques, désorienté par les coups de tonnerre, il ignorait où il allait. Ici, tout lui était étranger et hostile. Dans le ciel, s'ouvraient des gouffres écarlates qui voulaient l'engloutir. Le vent portait des gémissements et les rires d'âmes damnées. La foudre qui crépitait tombait sur ses talons. Pieds nus, trempé jusqu'aux os dans ses vêtements en lambeaux, il ne sentait pas le froid. Il ne pensait qu'à fuir, fuir à tout prix, ce dédale de pierre grise et les hommes à ses trousses. Il ignorait pourquoi on était venu le chercher, il ignorait ce qu'on lui voulait. Mais il savait que personne n'avait jamais quitté Dalros, et il préférait mourir plutôt que de retourner dans l'enfer de son cachot. L'alerte avait été donnée, des cris, des ordres, des appels résonnaient dans la forteresse parmi les grondements de l'orage. En haut d'un escalier extérieur, le prisonnier s'arrêta en voyant 3 soldats qui venaient vers lui. Ils le repérèrent à leur tour et cessèrent de courir pour approcher à pas prudent. Il les observa. Resté en retrait des autres soldats, un soldat lança par-dessus son épaule « Ici, ici !» Des voix lui répondirent, certaines étaient proches. Le prisonnier scrutait les 3 hommes en armes. Il hésitait toujours quand soudain, la foudre illumina crûment, leur visage luisant de pluie. Le prisonnier s'élança. Il surprit le premier soldat d'un coup d'épée à l'épaule, fit un tour sur lui-même et ventra le deuxième en remontant sa lame ensanglantée. Le 3e soldat attaqua en hurlant, mais le prisonnier para sans mal 2 coups de taille et planta jusqu'à la garde son épée dans le ventre de son adversaire. D'autres gardes arrivaient déjà. Le prisonnier dégagea sa lame et prit la fuite vers les hauteurs de Dalros. Il crut avoir semé ses poursuivants quand, au détour d'une venelle, il tomba sur une patrouille qui venait à sa rencontre. Il fit aussitôt demi-tour, au risque de foncer droit sur ceux qu'il venait de distancer. Ce qui faillit arriver. Hors d'haleine des soldats sur les talons, le fugitif bifurqua à l'instant où d'autres arrivaient en face. L'étau se resserra. De galerie en escalier, le prisonnier s'éleva toujours plus haut dans Dalros. Du coin de l'œil, il guettait les ombres déformées des soldats qui se projetaient sur les murs humides de la forteresse à chaque éclair. C'était une chasse, il était le gibier et la meute approchait. À bout de force, il s'élança à l'assaut d'une dernière volée de marche et gagna les remparts. Une bourrasque le prit au dépourvu et le renversa presque. Ici, les hurlements du vent étaient assourdissants et les rafales de pluie s'abattaient en trombe. Le ciel en furie semblait si proche qu'on croyait le toucher en levant les bras. Le prisonnier rentra instinctivement la tête dans les épaules et chercha une issue. Des soldats le rejoignaient d'un côté et de l'autre sur le chemin de ronde, d'autres montaient par l'escalier qu'il venait d'emprunter. Dans son dos, c'était le vide, et au terme d'une chute vertigineuse, les rochers contre lesquels se brisaient les flots furieux de la mer des ténèbres. Les soldats se déployèrent prudemment. Il était acculé, avait un regard de bête traquée, un souffle anxieux soulevait sa poitrine sous sa chemise trempée. Ses 2 poings étaient crispés autour de la poignée de son épée. Le cercle se resserra. Comme un soldat s'avançait, le prisonnier fit mine de le charger. Le soldat battit aussitôt en retraite et lui en fit autant, dos au créneau, de peur qu'on le contourne, il attendit. Arrivé parmi les soldats, le capitaine lui dit quelque chose, mais il ne le comprit pas. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir, il savait également qu'il ne pouvait pas vaincre. Il ne laisserait personne le reprendre. Comme ivre, il peinait à réfléchir, mais un désespoir plus fort que la peur brûlait en lui. Quoi qu'il advienne, cette nuit serait celle où il échapperait à Dalros. À l'appui du moindre geste des soldats, il recula encore, vers les créneaux, le vide et la mort. « Lorne !» fit soudain une voix. « Lorne, je t'en supplie, ne fais pas ça. Oh, » bah, vous saurez la suite, hein. Lisant au royaume, le chevalier. C'est comme ça que les lecteurs sont encouragés à vous rejoindre et à rejoindre nos amis tout à l'heure pour acheter les livres, parce qu'ils veulent savoir la suite. C'est comme ça qu'on les piège. Pierre Pevel, quand on vous croise, vous êtes un garçon absolument civil. Moi-même qui viens de lire ce passage avec une réjouissance visible, pourtant nous sommes des gens parfaitement pacifiques, et pourtant on se met à la place du héros, et comme lui, on a bien l'intention d'en décapiter quelques-uns, de mettre quelques épées dans le ventre et de s'en sortir. Comment vous nous faites ça, Pierre Pevel ?
Oh, de toute façon, en général, quand on est lecteur, prenez le début de la guerre des étoiles, on est tous pour le petit vaisseau dès le début. Le fuyard, celui qui semble avoir aucune chance de s'en sortir, attire toujours plus notre sympathie. Tout l'intérêt étant éventuellement de ne pas faire un gentil garçon du personnage en question pour jouer sur les codes. Donc comment on y arrive, ça j'en sais trop rien. En tout cas, s'il y a une forte empathie qui se développe en général quand on écrit ce genre de scène pour le fuyard, je dois reconnaître que j'y étais assez à sa place et je crois que j'aurais couru, mais je me serais malheureusement beaucoup moins bien battu, je ne serais pas allé bien loin.
Qu'est-ce qui fait, Pierre Pevel, que vous aimez bien mettre des scènes d'action? On le voit dans vos précédents romans, vos histoires de cap et d'épée, de mousquetaires. On le voit dans cette nouvelle série qui renoue plus avec la fantaisie, je dirais, d'action un peu classique. Qu'est-ce qui fait que vous aimez la baston, mais seulement dans les romans?
Est-ce que j'aime tant que ça? J'aime l'action ou j'aime la violence, j'aime les combats pour leur aspect essentiellement spectaculaire. En outre, on peut guère rêver mieux pour placer les personnages en situation de vie ou de mort. Tout ça fait que dans la littérature d'aventure, de toute façon, les scènes d'action, les combats, les bagarres, les poursuites sont des éléments incontournables. C'est plus le genre qui veut ça, finalement. Maintenant, je ne veux pas avoir de m'excuser, je prends beaucoup de plaisir à raconter ces histoires.
Gabriel Katz, vous aussi, vous aimez ça dans les romans?
Oui, il faut préciser dans les romans. Non, je ne tape sur personne généralement, ou alors vraiment en dernier coup. Oui, j'aime ça dans les romans, effectivement. C'est finalement un ressort qui est vieux comme le monde, c'est-à-dire qu'on fait monter la pression, et une fois que la pression est montée, ça finit en scène de violence. Je crois que quelque part, on attend dans ce genre de littérature et dans ce genre de contexte, on attend que ça éclate. Donc c'est vraiment un positionnement très attendu, je suis désolé de le dire, mais je crois qu'on serait déçu si ça n'arrivait pas. Et sans vouloir spoiler, il y a dans la trilogie du Puits des Mémoires que j'ai fait avant La Maîtresse de Guerre, il y a quelques moments où des batailles n'ont pas eu lieu. Bon, c'était un choix, et je crois qu'on en a un peu voulu, en fait. Donc bon, aujourd'hui, je me lâche un peu plus, et effectivement, ça saigne un petit peu plus que dans les volumes précédents, en fait.
Et vous, Chloé Nel? Vous aussi, vous aimez la baston dans les romans. Visiblement, à voir la scène, vous vous réjouissez d'écrire ça. Et on le retrouve dans beaucoup de vos histoires de vampires. Finalement, même s'il y a de la distance, de l'humour, on ne peut pas dire que ça soit... Le lecteur ne le perçoit pas, mais il y a quand même de la violence dans vos romans, de l'affrontement.
I think Merritt and the Chicagoland Vampires have to face... I like to put them in dangerous situations because it's interesting than just kind of having them hang around and talk about things since they're in contemporary Chicago. But one of the reasons that I have them engage in action scenes and violence, excuse me, my allergies, is because it, just as a tool for the writer, it really increases the pacing of the story. It helps keep the reader engaged in the story rather than just, you know, continuous dialogue or... kind of showing the author or showing the reader what the characters are doing. It's better, I think, to engage them in an action scene in which they maybe can learn something. We learn about their strengths and weaknesses. We learn maybe something about who the antagonist is. But we get a better sense of the dynamic relationship between supernaturals and other characters in Chicago, I think, by having action or fight scenes.
Mérite dans les vampires de Chicago et souvent dans des situations dangereuses. Et je pense que c'est aussi le but du jeu parce que en la mettant dans ces situations, on peut, le lecteur a une meilleure idée de son monde, parce que je préfère la mettre dans ce genre de situation, la confronter à ce genre de situation, que de décrire simplement des scènes où les personnages se rencontrent et parlent entre eux. Je pense que pour le lecteur, c'est important, le lecteur peut mieux s'identifier et mieux s'investir dans une scène d'action que dans une simple conversation entre les personnages. Et dans Les Vampires de Chicago, eh bien, Merritt va se retrouver confronté à des êtres surnaturels de diverses espèces. Et donc, ça permet également de montrer l'antagonisme entre les diverses espèces, mais aussi l'antagonisme entre les humains et ces diverses espèces. Donc, oui, c'est un moyen pour l'auteur de faire participer aussi le lecteur à ce qui arrive dans le livre, aux événements qu'on décrit dans le livre.
Un air paisible, il imagine qu'il va échapper à l'interrogatoire, mais non, Michel Robert. Trois guerriers reptiles étaient montés en haut de la tour sans rien trouver, sans songer à fouiller les débris du rez-de-chaussée formés par l'amas des blocs de pierre effondrés. Ils redescendirent dans la cour intérieure, se rapprochant du bâtiment de commandement, ils s'y engouffrèrent. L'un d'eux, particulièrement inspiré, alla jusqu'à passer la tête dans la cheminée. Il ricana en découvrant une paire de bottes qu'il s'empressa de tirer à lui. Ralgon, le vétéran, qui avait cru disposer d'une bonne cachette, glapit en tombant du conduit. Jeté à terre, il supplia jusqu'à ce qu'Alévor Pâle lui coupe la langue, puis les mains et les pieds, avant de se mettre à le dévorer vivant. Trois autres Vorpales abordaient l'un des bâtiments situés le plus à l'est. Ils avaient vainement fouillé deux maisons d'affilée. Tandis qu'ils passaient devant le flanc déchiqueté de la maison, un bras couvert d'une fine fourrure indigo jaillit par l'ouverture d'une fenêtre, agrippa un saurien et le tira à l'intérieur. Retentit alors le claquement sec d'une nuque brisée. Les deux autres Vorpales se ruèrent à l'intérieur, l'un bondissant par la fenêtre, l'autre faisant le tour par la porte. Résonna le tintement de l'acier, le bruit spongieux de la chair qui se fend, un gargouillis, un corps projeté contre un mur, un ahannement viril, un autre bruit spongieux, puis le silence. Guéritarich sortit du bâtiment, sa double lame suintant de sang noir, le loki courut sans bruit jusqu'à l'angle, constatant que la voie était libre, il se dirigea vers la forge. On a l'impression que vous avez écrit ça tout le temps. Vous n'avez pas été militaire de carrière ou mercenaire dans une jeunesse agitée, Michel Robert ?
Non, j'étais handballeur.
On savait bien que les sportifs de haut niveau étaient des tueurs.
Bon, déjà, il faut faire le distinguo entre la violence des romans qui est séduisante, captivante, intéressante, très agréable à écrire. On peut se lâcher dans tous les sens. Et la violence de la vraie vie qui est tout à fait laide et que je pense tous ici on réprouve absolument. Moi j'ai été élevé à travers le cinéma, à travers les films de Bruce Lee, les films de Jackie Chan, à travers les romans de Robert Howard, le créateur de Conan. Et quand je me suis mis à écrire et à écrire une fantasy assez musclée et assez sombre, il était évident que je porterais un soin particulier au combat, que je peux mettre une semaine pour écrire un combat et où chaque mouvement est vraiment réfléchi, décomposé, décrit, vérifié même, parfois dans mon jardin. Voilà, moi c'est, je crois que une de mes spécialités c'est justement ça.
Angeloki Guéritarich, c'est un personnage qu'on a déjà trouvé dans votre œuvre. Vous l'aimez bien, ce personnage ?
Je l'adore. Je pense que d'ailleurs mes lecteurs l'adorent aussi. C'est une espèce de grosse boule de poil, un guerrier qui aime tous les plaisirs de la vie et qui, d'ailleurs, parfois s'y perd un petit peu, qui aime bien boire, qui aime bien manger, qui aime bien faire l'amour, qui aime bien se battre aussi, il faut le dire.
Dans vos romans, c'est pas le seul. Krishgar avait accentué son avantage. Il feinta avant de frapper Celandil d'un coup de tête à la pommette, puis cogna le plat de son sabre avec tout le poids de sa propre épée. Momentanément sonné, Celandil perdit son arme. Krishgar dévoila ses crocs dans une grimace moqueuse. D'un geste grandiloquent, il invita l'ange à récupérer sa lame. Au moment où Celandil empoignait son sabre, Krishgar invoqua à nouveau son maléfice et sa collerette recommença à enfler de son feu jaunâtre. L'ange partit sur le côté, mais comme la première fois, elle ne fut pas assez rapide. Atteint par l'onde du Vorpal, il mordit la poussière pour la troisième reprise, maudissant cette attaque surnaturelle à laquelle il n'arrivait pas à échapper. Il se redressa en serrant les dents. Implacable, Krishgar levait la main et invoqua à nouvelle entre l'acte topaze. La rage froide qui couvait en la dent, renforcée tout autant par sa frustration que par son instinct de survie, par l'urgence extrême de sa situation, se cristalla subitement, formant une vague qui enfla en lui. Conjugué à sa volonté farouche de ne jamais abdiquer, le cri jaillit de sa gorge et l'air se troubla, tandis que la puissance qu'il venait de libérer percutait Krishgar en pleine face. Projeté en arrière, le khan s'effondra, tout en relâchant son propre pouvoir. Atteint en retour par la sorcellerie du Vorpal, l'ange s'effondra également. Krishgar se redressa juste avant la dent et se rua sur lui au moment où ce dernier se remettait debout. Il balança un nouveau coup de pied à Selendil, l'envoyant bouler sur le flanc. Enfin, un troisième coup de pied, il le projeta sur le dos. C'était la fin. Krishgar se campa au-dessus de Selendil. Son épée empoignée à deux mains commença à monter vers le ciel. Le coup de grâce n'allait pas tarder et le khan des Vorpal voulait que la dent en ait pleinement conscience. Mais oui, mais bon, on verra la suite. Vous le disiez, quand vous décrivez une scène, vous vérifiez que les mouvements sont sérieux. En gros, vous faites comme un auteur de roman noir. Vous vérifiez vos sources, vous vérifiez la crédibilité de ce que vous décrivez et racontez.
Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment important de créer des combats en technicolor, si je puis dire, en cinématographique. Et c'est important de que chaque mouvement puisse effectivement être mes combats. On pourrait très bien, j'ai des amis qui ont une compagnie de combats moyenâgeuses, et de temps en temps pour s'amuser ils refont un combat que je décris dans mes romans, et j'avoue que j'en suis assez fier, hein, je vais pas me mentir. C'est l'un des points forts de ma fantasy. Et je pense qu'effectivement, il y a aussi peut-être un petit peu d'orgueil là-dedans. Quitte à ce que je pense que mes collègues sont comme moi, si on fait quelque chose, on a envie de bien le faire.
Un autre auteur qui fait les choses bien, même pas mort, de Jean-Philippe Jaworski. Bon, on sait à quel point il est modeste, on va éviter de le troubler, mais c'est quand même le prix Imaginal cette année. Petit extrait aussi. On est dans un univers celte, on en a déjà parlé, mais le mieux, c'est peut-être de découvrir, comme il le disait en recevant son prix, en espérant ne pas être contaminé, les celtes racontent beaucoup et sont parfois légèrement vantards, et qu'en plus, ils ont du succès, alors là... Autrefois, tu étais courageux, a demandé mon frère, non sans une pointe de scepticisme. Oh oui, plus que courageux, en fait, téméraire, inconscient. Il a secoué sa tête grise avec un mélange de regret et de réprobation. Alors, tu as vraiment été un héros ? S'est étonné Ségios. Un héros ? A grommelé Subnos. Si tu entends par là une de ces brutes qui ne pensent qu'à se goberger et à s'entretuer, alors non, je n'ai pas été un héros. J'ai été bien plus grand, bien pire que cela. Car si aujourd'hui je suis sage dans ma folie, à l'époque j'étais fou dans ma sagesse. Tu étais plus grand qu'un héros, toi. Comment est-ce qu'on peut être plus grand qu'un héros ? C'est tout simple. Les rois parlent avant les héros. Il suffit de parler avant les rois. Nous lui avons coulé de longs regards incrédules. « Tu as rencontré des rois, toi ?» a relevé mon frère d'un air défiant. « Oh oui, » a grommelé le vagabond. « Et de trop près pour mon bien. À votre avis, d'où est-ce que je connais votre mère ? Et tu faisais quoi dans l'entourage des rois ?»« Bien des choses, bien des choses. J'ai été chanson, portier et passeur. Je lisais les étoiles et je sondais les cœurs. Je chantais les grands cycles de la lune et du soleil. Tu étais un devin ? Appelle-moi ainsi si tu veux, belle Ovèse. Je disais juste... que j'étais savant et orgueilleux. Et ta femme, c'est un roi qui te l'a donnée ? Oh non, pas elle. Personne ne peut la donner ou la recevoir. C'est elle qui accorde et qui reprend. Elle est comme moi. Elle vient du même endroit que moi. Nous avons longtemps marché librement sous le soleil, elle et moi. Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus ensemble ? Subnos a haussé les épaules et ses yeux se sont fait un peu fuyants. J'ai dû la décevoir, a-t-il marmonné. Tu l'as trompée ? Il a émis un ricanement dédaigneux. L'a trompée, elle ? Ce n'est pas dans ce sens que ça se passe, petit baie jaune. Vous ne l'avez vu que de loin. Mais si un jour vous avez l'infortune de l'approcher, alors vous comprendrez tout. Ma misère, mes poux, ma pauvre tête qui bat la breloque. Elle est si belle, la cruelle, qu'elle pénètre dans votre âme comme le couteau dans sa gaine. Il s'était frappé la poitrine et le front du talon de ses paumes. Une fois qu'elle est entrée là, et là, une fois qu'on l'a dans la peau, il n'y a plus qu'elle qui compte. Et elle le sait, et elle en joue, don et contre don. Si elle s'abandonne à toi... Alors elle exige beaucoup en retour. Moi, elle m'a demandé, il a vacillé. Et nous avons vu la peur et la folie danser au fond de ses prunelles. D'un geste saccadé, il a ouvert ses bras maigres, comme s'il voulait embrasser tout le sous-bois. Elle m'a demandé le monde, quoi d'autre, quoi d'autre. Il n'y avait rien de mieux pour elle. Elle m'a demandé le monde. Et vous savez quoi, mes oursons ? J'ai bien failli réussir. Oh oui, j'ai bien failli. Par centaines, je les ai entraînés à la mort. Tous, tous, les braves et les sages, les jeunes et les vieux. Par centaines, par milliers, j'ai bien failli. Et puis quand j'ai respiré tout ce sang, quand j'ai vu tous ces corps percés de lances et l'odeur de merde des ventres crevés et ces têtes terribles accrochées au char et au poitrail des chevaux, ceux qui m'avaient traité avec honneur, ceux qui m'avaient accordé leur confiance, j'ai bien failli, je l'ai déçu. « Tu as fait la guerre ?» s'est étonné mon frère. Alors vous, vous l'abordez très différemment, Jean-Philippe Jaworski, toujours une voix particulière. C'est au travers du récit que vous abordez la question de la guerre. Et vous abordez la guerre aussi après avoir parlé de l'amour. Et quand vous décrivez la guerre en quelques mots, c'est la brutalité, la violence, et on le disait tout à l'heure avec Michel Robert, le sordide de la réalité de la guerre. Comment vous pouvez à la fois écrire ce qui est une histoire d'amour et basculer aussi immédiatement dans cette mise en scène à double détente de la violence ?
Dans ce qui concerne la matière celtique, il y a une association assez forte entre la guerre et l'amour. C'est une association qu'on trouve très nettement dans la matière de Bretagne, puisque finalement, les amants comportent toujours un guerrier, que ce soit Tristan ou Lancelot. Hein, et l'amour est facteur de guerre. Hein. C'est l'histoire d'amour entre Lancelot et Guenièvre qui va provoquer la ruine du monde arthurien. Donc, même en remontant plus avant, alors dans une matière plus ancienne, je m'inspire de textes celtiques plus archaïques, en particulier la saga des vaches de Coulet. Et dans la radia des vaches de Coulet, ce qui provoque la guerre, c'est une querelle entre deux amoureux. Et ça dégénère sur une guerre terrible. Donc l'association entre la guerre et l'amour, c'est un motif qui est très ancien. Alors, on pourrait le développer hein, dans la société médiévale. La mystique des nobles, c'est-à-dire la mystique des guerriers, n'est pas une mystique religieuse à l'origine, mais c'est une mystique amoureuse. Il faut se dépasser soi-même par amour, et dans une classe sociale de guerriers, le moyen le plus évident de se dépasser soi-même, c'est se dépasser par la violence et par la force des armes.
On va faire une petite balade un peu ailleurs avec le vilain petit canard de la couvée, Hervé Jubert. Vous, c'est plutôt dans la science-fiction que vous êtes, mi-chemin de la science-fiction et de la mythologie, un peu différent. C'était une autre façon d'aborder la question de la violence. Monstre, une série, plutôt pour la jeunesse. Une harpie, reprend Milo incrédule. Cite-moi un autre bestiau qui a un corps d'aigle, une peau de cuir, une tête de femme, de cette taille en plus. Les harpies n'existent pas, rappelle Honte de sa voix la plus douce possible. J'en ai vu une. Un silence gêné s'installe dans le bus. Les crapauds en profitent pour pousser un chorus depuis la piscine. Désolé, Émile parle. Mais on a un peu de mal à te croire. Sam sort de sa réserve. Harpie ou pas harpie, un fou furieux a tiré sur Rolf. Une fléchette anesthésique. Et ce fou furieux avait un comparse qui m'a assommé et qui a volé tout le matos. Si vous voulez mon avis, on a eu affaire à des chasseurs. La première idée qui vient à Sam est qu'il contemple une chambre d'enfant mal rangée, colossale, et plantée au milieu de la nature. Au centre de la clairière, une serre. Sur le côté, une réplique de vaisseau spatial qui ressemble à une enclume géante. Un chêne monumental abrite une cabane à 3 étages. Un entrelac de toboggans, on en compte 4 qui se croisent comme des pipelines fous, se jette dans une piscine transformée en étang. Une voie ferrée scint la zone. On se doute que le hangar là-bas cache un train. Ce sont tes jouets, comprend Onde. C'était, rectifie Milo. Tes jouets ? Rolf éclaire la lanterne de Nathan. Milo a eu des joujoux un peu plus gros que les autres. Ton parc était jumelé avec celui de Michael Jackson ? Demande Sam. Impossible de savoir si elle est sérieuse ou non. Milo les guide jusqu'à un bus à impérial rouge posé sur le gazon. Ils grimpent à l'étage. Les banquettes ont été poussées contre les parois pour constituer une salle de réunion panoramique donnant d'un côté sur l'étang au toboggan, d'un côté sur l'étang au toboggan, de l'autre sur la serre. Pas mal, convient Émile. Plus que pas mal, confirme le reste de la troupe. Rolf et Sam sont revenus de Bangkok 2 jours plus tôt. Sam avec un sérieux mal de crâne. Rolf avec des révélations fracassantes. Rolf prélève une noisette grise avec une cuillère et l'applique sur le roast beef. La réaction ne se fait pas attendre. Le morceau de viande se met à pourrir à vitesse grand V. En 15 secondes, il n'en reste plus rien. Nom d'une hyène, jure Nathan. Rolf renferme ses tupperwares et les range au fond de son sac. « T'as vu une harpie ?» affirme Milo. « Les chimères existent, vraiment. » Alors le passage n'est pas vraiment un passage de baston, je l'ai choisi, mais un passage qui nous fait comprendre qu'on est dans un monde où il y a des super-pouvoirs, il y a des super-créatures, et que la violence règne. Qu'est-ce que vous allez lui faire dans cette série monstre, Hervé Joubert ?
Le pitch de la série est simple, c'est 7 ados qui se rencontrent dans un jeu en ligne qui s'appelle Chimera. Le principe étant, c'est un monde fantasy, il y a des chimères, il y a des protecteurs, il y a des chasseurs, on choisit son camp. Une entité, quelqu'un les réunit en vrai, sans qu'ils se connaissent vraiment, qui se retrouvent tous, ils viennent tous d'ailleurs, d'Éthiopie, d'Haïti, d'Europe centrale, et ils découvrent que les chimères existent en vrai dans les petites poches de terra incognita qui nous entourent, et qu'un chasseur les traque. Donc ils se retrouvent à accomplir leur mission dans la vraie réalité. Et ça débute dans le tome 1, je les envoie à Bangkok. Bon, ma première créature est une harpie, je la fais nicher en haut d'une tour fantôme, parce qu'à Bangkok, il y a une dizaine de tours de 200 mètres de haut qui ont été abandonnées en cours de construction. Et j'avais habité à côté de l'une d'elles il y a 2-3 ans, et c'était un lieu parfait pour nicher une harpie, parce que les Thaïlandais étant très superstitieux pensent que les tours sont effectivement hantées, donc seuls les chiens errants les habitent. Donc c'était parfait. Donc la belle scène d'action qui précède un peu la scène qu'on a entendue se situe en haut de cette tour où on voit la harpie, l'orage, le chasseur et tout est... Voilà.
Et justement, vous, comment dans différentes scènes de vos romans, parce que j'ai vu les deux premiers, vous traitez la violence quand il s'agit d'une violence pour ados? Est-ce que vous la traitez de la même façon qu'en roman adulte?
Oui. L'ado connaît bien la violence, je pense qu'il a subi au quotidien. Il suffit d'aller dans une cour de récréation pour voir la violence dans les grandes largeurs. Enfin, quand on va faire rencontrer des scolaires, ça, je reste souvent à l'écart de la cour en me disant, on a traversé cette espèce de maelstrom, le Léviathan n'est pas loin. Puis je crois qu'il ne faut pas avoir peur de leur raconter des choses violentes. Moi, j'adore parler de la mort, c'est mon thème central, c'est pour ça que j'écris du fantastique depuis toujours. La mort, c'est violent. Après, il y a la façon de la raconter. Moi, je suis plutôt dans le second degré, dans moquons-nous de la mort, faisons-lui un doigt d'honneur. Et voilà, et la violence se situe dans ce noyau-là, dans cette optique-là.
Deux auteurs, pas de fiction, mais un peu passé de mode, mais intéressant. Un certain Friedrich Engels et un certain Karl Marx avaient créé ensemble un roman, j'allais dire, un livre, qui s'appelait « Le rôle de la violence dans l'histoire ». Et c'est donc ce titre qui m'a fait penser à ce café littéraire et au double sens, évidemment, eux en parlaient dans l'histoire de l'humanité. Et vous, je voulais vous demander, on commencera par Pierre Pevel, quel est le rôle de la violence dans vos histoires, Pierre ?
Il est double, je pense, encore que j'aurais du mal à faire la part des choses entre violence et l'action, finalement, les scènes d'action. La violence, elle est souvent le point de départ du problème, enfin de la situation de crise auquel les personnages vont être confrontés. Et souvent, c'est également son mode de résolution principal lorsque tout le reste a essayé et a échoué, pardon, et encore pas toujours. Le recours à la violence pour certains personnages étant immédiat ou naturel. Moi, un thème que j'aime bien traiter est celui du devoir, de ce que vont faire les hommes par ce que peuvent faire des hommes et en particulier des soldats par idéal, par fidélité ou par obéissance tout simplement. Et c'est dans ce registre-là, en effet, que la violence peut s'illustrer de manière. Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'il y a une Est-ce qu'elle peut être légitimée par quelque chose, par un bien commun, par la raison d'État, ou simplement par le désir d'assouvissement d'une vengeance ou d'une colère? C'est vraiment un thème qui me fascine, probablement parce qu'il m'effraie, parce que j'appuie ce qu'a dit Michel tout à l'heure. Notre violence, quand je dis la nôtre, c'est celle qui est dans les bouquins ou qu'on peut aimer dans les films, etc. Elle est en effet séduisante, elle peut même être sexy, ce qui est monstrueux. La vraie violence est une abomination et dégrade autant celui qui la commet que celui qui la subit. Donc, je ne cautionne en rien, ne faites pas ce que font mes héros, s'il vous plaît.
Et Michel Robert, est-ce que dans le monde de fiction que vous nous décrivez, pour avoir lu au moins 7, 8 peut-être de vos romans maintenant, J'ai l'impression quand même parfois que la violence est à la fois le problème mais aussi la solution chez vos héros.
Mon héros principal, c'est l'Anit de Cortavar, est effectivement quelqu'un de violent. Et c'est comme ça, et manifestement les gens, parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de fans, et les fans l'aiment comme ça, mais il ne faut pas se leurrer, l'homme est un animal violent quand on voit ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Ukraine. Encore aujourd'hui, dans un monde qui est prétendu domestiqué ou qui est prétendu civilisé, on se rend compte que l'être humain, et notamment les hommes, sont encore prêts à se massacrer pour le moindre conflit. Donc je pense que la violence, elle est en nous. Moi, je préfère l'extérioriser à travers des romans plutôt que de me battre avec mes frères ou mes confrères.
Comme dans certaines manifestations clamant à nouveau dans les rues de Paris, on l'aurait jamais imaginé il y a quelques années, mort aux PD, mort aux Juifs. Ils étaient 10 000 ceux-là, mais quand même, quoi. C'est déjà 10 000.
Non, mais c'est vrai qu'on est dans une société, même avec le mariage pour tous, on se rend compte que l'être humain, vraiment, et la violence en l'être humain, elle n'est pas du tout assoupie, elle est limite à fleur de peau, et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on recommence à se tabasser dans les rues. Ouais. Franchement, je trouve ça tellement inquiétant. Moi, la violence, effectivement, elle est très présente dans mes romans, mais c'est juste dans des romans, quoi.
Gabriel Katz, est-ce que c'est sexy quand même dans les romans, la violence, mais quand elle est exercée par une femme qui s'en laisse pas compter ?
Je sais pas si c'est sexy quand c'est exercé par une femme. C'est sexy tout court, effectivement, parce qu'il y a une esthétique de la violence qui a été posée et par les bouquins, et par le cinéma, et par les séries, qui fait qu'aujourd'hui, une scène de violence est quelque chose de très esthétique. Donc c'est exaltant, c'est esthétique, ça a du souffle. Et même quand on rajoute du « Ah, c'est horrible, ça pue, c'est atroce », etc., on met quand même une jouissance terrible là-dedans. Donc c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'on essaye de justifier, on dit « Oh là là, mais la guerre, c'est atroce », et finalement, on se fait terriblement plaisir avec ces scènes-là en disant c'est de la fiction, c'est pas dans la vraie vie, parce qu'effectivement, regarder un truc sur l'Ukraine, c'est atroce. Alors que lire ce qu'on vient de lire là, qui est juste épouvantable, l'extrait qu'on a lu de mon bouquin, par exemple, sur le coup, je l'ai trouvé super gore, alors que je l'ai écrit. Donc, c'est vraiment une justification, c'est un filtre. Et par le filtre de la littérature, on arrive à faire passer ça. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans mes bouquins, c'est l'espèce de déchirure. C'est-à-dire que dans la trilogie du Puits des Mémoires, c'est basé sur l'amnésie, un personnage qui est bouffé par ce qu'il était avant, qui est la violence, justement. Et il n'aime pas, il la rejette, et en même temps, au moment où ça remonte, il met tout ce qu'il a. Et finalement, il prend son pied, ce qui est épouvantable. Il n'aime pas ce qu'il fait, il n'aime pas ce qu'il voit, mais il le fait quand même. Et dans La Maîtresse de Guerre, elle part en disant « ça y est, je vais être comme mon père, maître d'armes, c'est trop cool ». Elle se retrouve dans quelque chose qui ressemble à une croisade où on viole, on pille, on massacre, on décapite, et elle trouve ça assez atroce. Et elle continue à se battre quand même. Donc il y a un vrai déchirement là-dedans.
Jean-Philippe Jaworski, dans votre premier roman, Gagner la guerre, vous débutez le roman par, dans un des chapitres, ça démarre par un assassinat brutal, sordide, une traîtrise, on ne dira pas plus. Dans notre scène, c'est un cassage de gueule, mais pour de vrai, vous voyez souvent au cinéma, paf, le coup, il se relève, paf, et puis le soir, il est à peine un petit bleu, il est presque sexy dans la chambre, avec sa conquête. Non, dans la réalité, un cassage de gueule, 2-3 coups de poing en général, vous avez le nez explosé, vous avez l'œil parfois sorti, les dents brisées. Ben, la réalité d'une agression, comme on en voit parfois dans nos rues, c'est ça. Mais néanmoins, vous avez eu pour cette façon de mettre en scène la violence jusqu'au bout, hein, dans le concret, le détail, demander aux pharmaciens, demander aux dentistes ce que ça donnerait, comment on rafistole, etc. Vous allez vraiment dans le détail, le perfectionnisme de la description, on vient de le voir dans l'extrait de Même pas mort. Vous avez donc pour ces scènes un premier prix imaginal. Vous recommencez, même si la violence est un peu différente dans le premier tome.
Je récidive.
Vous récidivez et vous avez à nouveau un prix imaginal. On vous encourage vraiment. Est-ce que finalement... la baston, il n'y a pas que vous qui aimez ça, Jean-Philippe Jaworski, visiblement aussi le jury des Imaginales. Et plus sérieusement, comment vous la traitez ? J'ai peut-être l'impression, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dans votre premier roman, Gagner la guerre, vous le traitez de façon, avec de l'humour noir, de façon distanciée, puisque le narrateur, c'est un de ces violents qui décrit, mais aussi de façon très précise. Et à l'inverse, votre façon de raconter dans Même pas mort, on la voit de façon différente. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'était votre projet ?
Oui, c'était mon projet parce que j'ai des narrateurs personnages et par conséquent la perception qu'ils ont de la violence est subjective. Ce sont deux personnages qui ont une grande expérience de la violence puisque finalement Benvenuto, personnage principal de Gagner la guerre, est un ancien soudard qui est devenu un tueur à gages et qui par conséquent a une expérience presque quotidienne de la violence. Et puis Belovez, le personnage principal de Même pas mort, est ce que les Celtes appelaient des héros, c'est-à-dire c'est un guerrier. Il a aussi une expérience de la violence. Alors, dans Même pas mort, la violence est peut-être un peu moins marquée, bien qu'il en prenne aussi plein les dents, hein, Belovez, parce que on est dans le récit du début de la vie et de la formation du guerrier. En ce moment, je suis dans l'écriture du deuxième tome, et en fait... je baigne dans le sang et les têtes coupées. Donc, il y a un regard qui est différent, et pourtant, il n'y a pas de complaisance. Si, il y a beaucoup de complaisance, en fait. Il y a beaucoup de complaisance dans la peinture de la violence, en raison de ce qu'on disait, c'est-à-dire que oui, elle est sexy, oui, elle est esthétique, même quand elle est horrible, même quand elle est réaliste, hein, parce que c'est vrai, j'ai été voir des médecins plusieurs reprises pour leur demander, alors voilà, jusqu'où est-ce que je peux casser la gueule à quelqu'un? Quelles sont les blessures vraiment dont il ne peut pas se relever? Est-ce que je peux lui infliger telle blessure horrible et est-ce qu'il peut se relever? Et donc, bon, j'avais des réponses. Qu'est-ce qui fait que cette violence terrible est sexy? Qu'est-ce qui fait que vous, le public, vous êtes aussi complaisant que moi en adhérant quand vous allez nous lire. Parce que, d'une part, la violence écrite, elle est cathartique. Ce qu'on lit ou ce qu'on écrit, on ne le fait pas. Donc, ça a quelque chose d'utile socialement, hein, et personnellement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que cette violence, même quand elle est horrible, en fait, elle devient un facteur d'attirance plutôt qu'un facteur de dégoût vis-à-vis du bouquin? Moi, gagner la guerre, à chaque fois que je vois quelqu'un, un acheteur, bon, bien sûr, c'est un jeu, hein, mais à chaque fois que je vois un acheteur qui se présente, qu'il ne le connaît pas, je lui déconseille, je lui dis que c'est rempli d'horreur, et donc il m'achète mon bouquin. Pourquoi ? Parce que l'horreur, c'est une expérience religieuse. C'est l'ébranlement de la sensibilité, c'est exactement ce que cherchaient les anciens dans le sacrifice, dans le sacrifice animal, dans le sacrifice humain, parce que même si nos lointains fondateurs de notre culture, les Romains, prétendaient rejeter le sacrifice humain, ils en ont pratiqué quelques-uns, et puis surtout, ils étaient absolument friands de combats de gladiateurs. Hein. Donc, il y a quelque chose. Et le combat de gladiateurs, par exemple, à l'origine, c'est une tradition religieuse étrusque. C'est un combat qu'on offre pour un mort, c'est une célébration religieuse. Donc, dans l'horreur latine, c'est le frisson qu'on ressent face au sacré, on ressent en fait un ébranlement de la sensibilité qui confine aux religieux. Et je pense que c'est ça qui rend la violence extrêmement sexy. C'est que dans cette expérience extrême qu'on a par le prisme du roman, du film, etc., on touche à quelque chose qui est très profond et qui n'est pas seulement un comportement animal, mais qui est aussi une aspiration à une forme un peu effrayante de spiritualité.
Ben, c'est différent, donc c'est comme ça que vous allez vous en tirer, Hervé Schubert, c'est que vous vous adressez à un public ado, et vos monstres sont quand même des chimères, des créatures, et là peut-être que justement, même si la violence est pareille, brutale, mais elle est peut-être un petit peu, comme c'est quand même des super-héros ou des super-monstres, elle est quand même peut-être un peu médiée. Voilà, je ne sais pas oui. Si...
Oui, les chimères. Je développe aussi le thème qui me plaît bien. Enfin, l'adolescent est un monstre. On est tous des monstres. L'autre côté animal, etc. etc. Mais je voulais revenir au plaisir d'écrire des scènes d'action et d'écrire de la violence. Enfin, je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, dans le roman de Jean, à écrire comme on voit un film. Enfin, je sais pas, quand j'écris un bouquin, c'est comme si je voyais un film défiler. Je me lance dans un bouquin sans avoir la trame, mais j'ai la bande-annonce. Je sais que quand j'écris des scènes violentes ou d'action, c'est là où la musique se lance. C'est du Prokofiev, du Holst, du punk, c'est le rythme arrive, alors c'est du symphonique, c'est du wagnérien ou c'est du très saccadé. Et c'est vraiment là où je prends le plus plaisir à écrire, où je suis plus en empathie avec les personnages qui sont en difficulté, où on les tue. Mais c'est surtout là où il y a la musique. Et moi, c'est les meilleurs moments d'écriture. Quand j'écris une scène d'action et que le téléphone sonne dans mon bureau, je n'entends pas. Scène de dialogue, je vais l'entendre. Mais là, on se coupe de la réalité, on est en auto-hypnose, on est en transe, on est en n'importe quoi. Et c'est jouissif.
Évidemment, notre invitée américaine pour la fin. Après toutes ces monstruosités qu'on a entendues, même si on vient d'avoir une petite respiration avec Hervé Gilbert, quand même le jeune public. Mais bon, enfin, le jeune public, il ne faut pas tant le ménager que ça. En fait, c'est les parents qu'on ménage, pas le jeune public, la réalité. La lame et le sang quand même dans l'histoire de vampire. On décapite. C'est un rapport au sang, peut-être, Chloé Nell.
You know, I've been thinking as the gentlemen were speaking. I think, and I agree with everything that's been said. I think one additional thought about violence in these books is that it tends to be not really that the enemies coming at our protagonists are violent per se. But that the violence is the symptom of some deeper problem. It is because they are afraid of our supernaturals, or they are angry that the supernaturals have more than they do. They're threatened by the power that they think supernaturals have. Or in some cases, they're just psychopaths, and violence is the way that they put their mental issues onto the world. So I think in many instances, we kind of use violence as a symptom of those larger issues, but certainly in a novel about vampires, I think it's almost impossible not to mention violence of some kind and blood, because there is a predator element of a vampire that I think you have to talk about.
Je réfléchissais tout en écoutant mes collègues et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. En fait, dans nos romans, ce n'est pas tellement qu'il y a une attaque qui vient de l'extérieur vers nos protagonistes, mais c'est peut-être dû à la peur qu'ont les autres de nos protagonistes, qui sont souvent des êtres surnaturels. Donc ces êtres surnaturels déclenchent une énorme crainte, bien sûr, la frayeur, vraiment. Et peut-être parce que les autres se sentent menacés par les êtres surnaturels, ou alors ils ont peur d'eux, comme je le disais, ou alors ils sont jaloux de leur pouvoir, ou alors simplement ce sont des psychopathes, et des psychopathes qui projettent certaines émotions sur nos êtres surnaturels. Mais c'est peut-être simplement des symptômes aussi de ce qu'ils éprouvent à l'égard des vampires. Mais dans mon cas, avec les vampires, c'est évident qu'il faut bien sûr parler de sang et de violence, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect prédateur, le côté prédateur du vampire, qui est quand même important.
Ben voilà, on a terminé sur prédateur, finalement, pour un sujet comme la baston dans les romans, c'était pas si mal. On vous renvoie au livre de nos invités, la série Monstres chez Rajo pour Hervé Gilbert, Les Vampires de Chicago de Chloé Nell, par qui on vient de terminer, Angers, Loki, le dernier roman de Michel Robert, mais tous les autres de la série, et aussi Guérita Riche, que moi j'aime bien, La Maîtresse de Guerre, bien sûr, de Gabriel Katz, sans parler de la trilogie des Puits de Mémoire, j'y arriverai, Le Puits des Mémoires. Les Puits des Mémoires, qui est donc une trilogie, et c'est le prix Imaginal de l'année dernière. Pierre Pevel au Royaume, le premier volume, sa nouvelle série, publiée aussi au Royaume-Uni, rien que ça. Et là aussi, ancien prix Imaginal pour un de ses romans. Et puis, deux fois prix Imaginal pour beaucoup de bastons, Gagner la guerre. Et même pas mort, commencez par celui-là, il n'y en a pas trop. Ça vous préparera au suivant. Vous les retrouvez sous la bulle du livre. Merci à vous tous. Merci.